Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Vous savez, dans une période où c'est un petit peu trouble, un petit peu gris, un petit peu noir, il y a toujours une petite lumière, un petit faisceau. Vous savez, comme le petit poussé qui avance et puis qui voit au bout du chemin une maison avec une petite lumière dans une fenêtre. Eh bien là, on va dire que la période que nous traversons, il y a toujours, toujours une petite fenêtre. Toujours quelqu'un qui va faire un dessin, qui va faire un mot, qui va dire quelque chose et qui va nous donner un petit peu de baume au cœur. Ça va être notre soleil du jour en ce dimanche. Et donc, pour nous parler de ce soleil et puis de ces moments aussi un peu difficiles, mais avec humour et tendresse, et aussi parfois, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Olivier Lejeune. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces deux ailes, pour Délivrez-vous, pour votre livre La vague au cœur de la tempête aux éditions Human Science. Alors, vous êtes médecin au CHU de Lyon, à la Croix-Rousse. Eh bien, parlez-nous un petit peu de vous avant de parler du livre. Qui est Olivier Lejeune?
Eh bien, Olivier Luge, c'est...
Luge aussi, oui.
Son vrai nom, c'est Olivier Lejeune.
Lejeune.
Je suis médecin addictologue.
Oui.
Depuis une quinzaine d'années, je travaille dans cette spécialité et je travaille sur les hospices civils de Lyon à temps plein depuis 4 ans. Avant, j'étais à mi-temps, je travaillais aussi à Vienne.
Mm-hmm.
Là, je travaille avec une grande équipe. Et en particulier dans un service qui reçoit les patients pour une période de 14 jours pour réaliser des sevrages. Et c'est ce service qui, lors de la première et puis de la deuxième vague, est devenu parmi de bien nombreuses unités de l'hôpital, des unités Covid, quoi. Mmh.
Alors, votre livre s'intitule « La vague ». Vous l'avez écrit, réalisé durant le confinement du printemps dernier. C'est une bande dessinée qui raconte un petit peu les aléas, l'aventure de ce moment difficile. Alors, il faut préciser, et malheureusement, que votre livre colle aujourd'hui encore à l'actualité, en ce dimanche 28 mars, puisque de nouveau la France connaît une remontée de l'épidémie assez importante, malheureusement. Alors, comment vous êtes venu? Alors, c'est le personnage, c'est Covid, le virus, hein. C'est un
ami. Oui, il y a lui, il est venu un peu. Comme un cheveu sur la soupe au début, le personnage principal, c'est un étudiant en médecine,
oui.
Un jeune étudiant qui est en troisième, quatrième année,
oui.
Et qui découvre un peu le monde hospitalier, qui lui-même découvre le virus, et le petit personnage de Cove.
Cove, le virus,
qui est
un animateur teigneux.
Tête à claque, hein,
oui.
C'était au départ un peu une blague, et puis en fait ça fonctionnait bien, ça permettait au personnage principal de discuter avec le virus.
Oui.
C'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire, on n'y arrive toujours pas vraiment, hein. On ne le comprend pas, on ne sait pas par quel bout le prendre.
Oui.
Donc voilà, c'était un processus narratif, ça me permettait de faire un peu d'humour noir, ça fonctionnait bien, donc j'ai poursuivi avec le temps.
Et vous avez bien fait. Donc en fait, il est sur une chaîne YouTube, il fait des fake news. Alors on est en pleine, c'est tout à fait le fait du moment, hein, sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., les fake news. Et donc il y a tout un tas de personnages. Alors il y a aussi le médecin ou l'infirmier qui est en pleine crise de savoir s'il va continuer ou pas. Donc tout un tas de personnages. C'est très bien dessiné. Comment s'est passé le... Enfin, vous êtes doué en dessin, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais ça a commencé comme ça. Vous le montriez aux équipes et puis au fur et à mesure de l'histoire et des moments, ça permettait aussi de juguler l'angoisse et un peu l'incompréhension du moment.
Oui, ça a vraiment été quelque chose. Alors a posteriori de Ouais, un peu de salvateur, en fait. Ça permettait d'avoir une sorte de petit filtre permanent que j'avais avec moi qui me permettait de pas peut-être me prendre toute la réalité du truc en face, d'aller au travail le matin en me disant que j'allais trouver autre chose que des situations que pour l'instant, j'étais pas formé du tout à gérer, parce que c'est pas exactement le cœur de métier d'un addictologue de s'occuper de gens qui ont des problèmes respiratoires. Voilà. Mais ça a renforcé nos liens d'équipe aussi, et puis c'était des choses qu'on partageait avec d'autres personnes de l'hôpital. Les gens venaient me voir, ils me proposaient une idée, ça créait une sorte de dialogue un peu parallèle à ce qu'on vivait. Ça mettait une bonne ambiance, je dirais. Enfin, en tout cas, ça participait, parce que ça tenait pas que sur ça, la bonne ambiance, mais ça participait.
Alors, vous avez mis ça sur les réseaux sociaux au fur et à mesure du temps, et puis finalement, la maison d'édition a trouvé ça formidable et a trouvé que l'idée était bonne, d'où votre présence aujourd'hui. C'est un peu l'histoire.
C'est ça, ça s'est fait comme ça. Moi, j'envoyais ça aux collègues, aux amis, et puis ça a rebondi des ricochets sociaux, là, et voilà, c'est comme ça que ça s'est pris. Et après, il a fallu construire une histoire, parce que tout début, c'était juste des planches indépendantes, et il n'y avait pas forcément de gens, j'en faisais une par jour. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé, et après, j'ai ralenti un peu la cadence, parce que bah, voilà, c'est dur à tenir. Mais sur les 6 mois qui ont suivi directement notre mise en unité Covid, j'ai fait cette histoire. Au début, je dois dire, un peu à la demande de l'éditrice, parce qu'au début, j'avais pas forcément l'idée d'en faire une histoire. Donc, je suis assez content d'être allé au bout.
Ah oui. Et alors, ce personnage, Cove le virus, il est né au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire cet animateur teigneux, parce qu'on n'arrivait pas, on n'arrive pas à bout de ce Covid-19. Donc, vous l'imaginez teigneux, faisant des farces, des fake news et un petit peu plaquant tout le monde un peu au sol et se servant des gens comme punching ball. Mais il est redoutable, Cove le virus, quand même.
On n'arrive pas à discuter avec lui, ça c'est quelque chose.
Ça c'est sûr.
Voilà. Et puis effectivement, il y avait l'histoire des fake news. C'est vrai qu'on voulait mettre un petit peu plus de science entre guillemets parce que c'est un peu la vocation de la collection de parler de choses scientifiques. Alors il y avait l'expérience de cette pandémie, mais quand on a voulu mettre un peu de science, c'était compliqué parce que les données scientifiques se périmaient extrêmement vite. Et donc, même pour quelque chose qui paraissait le plus avéré possible avec les données scientifiques du moment, pouvait quelques semaines après paraître caduque, et donc de loin, ça ressemblait comme deux gouttes d'eau à une fake news. Donc tout se mélangeait. Et donc, je me suis dit que voilà, qu'il anime. Et puis alors après, je me suis inspiré aussi. J'ai des enfants, j'ai des ados qui regardent des youtubeurs. Donc voilà, ça s'est croisé avec la réalité aussi. et donc je le voyais bien en animateur de chaîne YouTube à raconter n'importe quoi. Et avec le petit défi quand même que ça reste pertinent dans la durée. D'où le dispositif où régulièrement il nous questionne, ce Cove, en disant, et de là où vous lisez le livre, à l'époque où vous lisez le livre, où est-ce qu'on en est des données scientifiques? Parce que finalement, et c'est vrai qu'en le relisant, c'est assez drôle, il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels on n'a pas beaucoup progressé.
Non, c'est vrai. Et en fait, moi, parfois, en lisant la BD, alors bon, il y avait des personnages, et des fois, j'avais envie de me dire, oui, ben alors d'accord, et maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme le virus, ok, t'es toujours là. Bon, ben, nous, on continue. Et maintenant? En plus, ce qui est bien, c'est que ça, de temps en temps, on pose le livre, on se pose la question. Et puis, alors, vos personnages, je suppose que vous êtes inspirés aussi de gens, peut-être aussi, qui vous inspiraient. Mais ça force aussi à la question et au recul aussi sur la chose. Et on se dit, finalement, on a avancé un petit peu en faisant du surplace. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est ça, en faisant des boucles on se repose régulièrement les mêmes questions en y apportant des réponses qui sont à chaque fois pas complètement les mêmes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de sortir du labyrinthe. On a plutôt l'impression d'être effectivement peut-être un peu dans un labyrinthe avec le Covid comme minotaure. On aimerait bien qu'il y ait, si vous parliez du petit pousset, on aimerait bien trouver les traces, les petits cailloux pour
les
sortir du labyrinthe.
Parce que pour l'instant, on met des bouts de pain. Pour l'instant, c'est des bouts de pain. Et on ne trouve pas le bout du télé ni la maison avec la petite lumière. Mais on y arrivera. On va s'en sortir. On va y arriver. On va y arriver. Alors, moi, c'est quand même une main ferme dans le dessin. Vous avez toujours dessiné, Olivier Luge?
Ah oui, alors ça, j'ai, comme je dis souvent, souvent. J'ai déjà essayé d'arrêter, mais j'arrive pas bien.
Vous êtes né avec un crayon au bout du bras, c'est la continuité de votre main.
Il faudrait que je réinterroge ma mère, mais en tout cas assez rapidement. Il y a pas mal de photos de moi quand je suis petit où j'ai des crayons. Ben ça après c'est voilà, ça fait partie de mon équilibre de vie. Je me lève tôt le matin pour dessiner et puis. Ouais. Voilà. Donc après, quand il a fallu faire des planches, bah, j'avais déjà ce rythme-là de faire des. Je fais des planches de bande dessinée pour moi depuis longtemps. Mm-hmm. Voilà. Donc.
C'est votre addiction à vous. C'est votre addiction à vous.
Pas dire ça. Voilà. C'était mon addiction. Quand je disais que j'ai déjà essayé d'arrêter, c'est vrai. Parce que souvent, c'est un peu.
C'est grave, docteur.
Faut que je fasse attention au reste de ma famille, que oui. Je ne fasse pas que ça.
Oui, bien sûr. Oui, mais bon, mais c'est bien, ça peut être un dérivatif et c'est très bien. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que ces dessins, ces planches, cet humour, parce qu'on en avait besoin, ça vous a aidé et puis aussi votre entourage, sans que cela résolve des tas de choses, on va pas faire de la psychologie à trois balles et de barres du coin, mais malgré tout, est-ce que vous êtes dit, bon ben voilà, je contribue un petit peu, ils sont contents, je continue. Vous avez eu ce sentiment quand même?
Alors, au début, vraiment, avec mes collègues proches, c'était une blague. Hein. Chaque planche était une blague. J'avais la pression pour faire une planche différente tous les jours. Je leur envoyais, ils me faisaient des retours. Donc ça, c'était très actif. Ouais. Après, ça a pris une autre dimension quand ça a été publié, en fait. J'ai beaucoup de retours. J'en ai eu un, là, encore tout à l'heure, par mail, de gens que je connais pas, qui me remercient, combien ça les touche, ouais. De dire que... voilà, qui s'y retrouvent, que alors là c'est essentiellement des soignants là, qui oui. Voilà, qui ça leur rappelle leurs études, ça leur oui. Voilà, donc je, et puis il y a eu quelques séances de dédicaces, dont une à l'hôpital justement qui les gens viennent et ils discutent de comment ça a été difficile, ça fait comme des petits groupes de parole, si oui. Vous voulez, ou ils rediscutent de ça parce que c'est pas métabolisé du tout, hein, ce truc-là. Moi, j'ai l'impression. Donc voilà, je me dis, bon, bah, c'est chouette si ça peut servir aussi un peu à ça, à faire parler de cet épisode compliqué, peut-être traumatique même pour certains, vraiment. Oui. Je perds mes mots, mais si ça peut servir à refaire parler un petit peu.
Oui. Donc, malheureusement, on le disait hors antenne, terriblement d'actualité, hélas. Et ça permet aussi d'aller à la rencontre de personnages. Bon, il y a cet étudiant et puis aussi il y a ceux qui ont la crise de la vocation. Ce sont des faits, des situations que vous avez rencontrées autour de vous aussi.
Alors, je me suis quasiment toujours inspiré de trucs vrais. Il y a juste l'histoire de la vie en papier là, qui est un truc complètement fictionnel, mais tout le reste, le fait d'accueillir quelqu'un de la famille, de l'équipe, dans le service, ça c'est vrai également. Et toutes les planches partent d'une situation liée au Covid. Il y a eu le coup de l'étudiant qui se pose des questions sur sa vocation, c'est assez fréquent quand on discute avec les étudiants.
Imagine, oui.
Et le fait qu'il hésite à faire du dessin, je suis pas allé chercher très très loin, je dois vous dire.
Oui.
Moi-même ayant pris cette fameuse année sabbatique que Nils, le personnage principal, se demande s'il va prendre, moi j'en ai pris une pour faire un peu de dessin. Oui. Voilà, donc je suis pas allé chercher. Tout ça c'est assez dans l'urgence. Hein. Je dois dire que l'histoire s'est montée progressivement au fur et à mesure que les événements de la première vague s'accumulaient. Donc j'ai pas ça s'est fait en urgence, à l'instinct, enfin je sais pas comment on peut dire, mais
je comprends.
Donc je suis pas allé chercher très loin. Tous les personnages, alors il y en a pas qui sont inspirés directement de personnages réels, j'ai fragmenté en plein de petits morceaux des gens que je connais autour de moi, des collègues,
et puis des petites histoires,
voilà,
des petits morceaux de vie en fait aussi.
Des petits morceaux de vie, des petits morceaux de personnalité pour en faire des personnages qui puissent parler, qui puissent interagir entre eux, et puis que ce soit un peu dynamique et puis que ça puisse amener. Le but étant que ce soit drôle quand même, même si on n'échappe pas à la réalité de ce qu'on a vécu. Hein.
Bien écoutez, j'espère que ce qui va être drôle, c'est la petite pause musicale que nous allons faire et nous retrouvons tout de suite après.
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent, c'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo, on a éteint les chaînes d'infos. On fait comme si ce n'était qu'un jeu, on fait comme si, on fait comme on. Être si loin nous rapproche. Même pour parler de rien, du bleu du ciel, surtout donne-moi des nouvelles. On fait comme si ce n'était qu'un jeu, on fait comme si, on fait comme on peut. Quand vient la nuit, en fermant les yeux, on fait comme si ce monde était encore heureux. On fait comme si on n'était pas là, parents, amis, on se reverra. Un dimanche de plus, sûr que nos vies d'après seront plus belles, surtout donne-moi des nouvelles.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Olivier Luge pour son livre La vague au cœur de la tempête aux éditions Human Science. Après cette bande dessinée sur le confinement du printemps dernier étalée sur plusieurs semaines, quel regard avez-vous jeté? Comment avez-vous analysé votre dessin, ces planches, cette histoire, le personnage du Covid? Comment vous y avez réfléchi? Est-ce que vous avez analysé le pourquoi de la chose? Pourquoi ça vous était venu?
A posteriori, vous voulez dire?
Oui,
c'est ça,
a posteriori. Une fois que c'était fait.
Eh ben, j'ai pas vraiment réfléchi. Ce que je dirais, c'est que c'est un moment qui a été essentiel. Le fait de faire des dessins comme ça, là, oui, ça a été essentiel pour moi à ce moment-là. Je ne sais pas comment j'aurais abordé cette période-là sans les dessins.
Ah oui.
c'est quelque chose qui s'est poursuivi de manière un petit peu différente, mais pour la deuxième vague.
Oui.
Là, j'ai fait des badges à partir du personnage.
Oui.
Des badges Ghostbuster, c'est en reprenant le petit logo du Ghostbuster avec le personnage,
oui,
de l'Afro-Covid. Là,
oui.
Et à nouveau, c'était pour mobiliser de manière un petit peu décalée aussi notre équipe de soins. Et puis, je continue à faire sur Instagram des dessins en rapport avec cette situation. Donc, elle continue à m'interpeller. Je suis assez content de... Pas tout vous dire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je suis content en relisant certaines pages de...
Oui.
Voilà, je suis... comment dire, ça me fait presque... Il y en a certains qui continuent à me faire rire, en fait.
Oui,
hein,
oui. Mais il y a beaucoup d'humour.
Ce qui me faisait rire, c'est le côté assez surréaliste, en fait. Il manquait pas grand-chose pour que ça devienne... drôle et comique, parce que c'était tellement surréaliste tout ce qui se passait, ces changements de directives.
Ah oui, oui. Vous le dites, contradictoire, vous le dites d'ailleurs, hein, changement contradictoire de parole, un coup oui, un coup non, on va en arrière, on avance. Et c'est très bien traduit, parce que finalement, au bout d'un moment, on finit par en rire. Enfin, au travers des dessins, des planches, on le sent, ce côté un peu ubuesque de la chose.
C'est ça, oui. Ça c'était ce qui était le plus frappant, hein. On se regardait tous les uns et les autres, on se disait c'est pas possible. Et on fait en même temps, on était quoi.
Oui. Mais alors, sans parler de choses désagréables, mais malheureusement on y est. En lisant la BD, en la terminant, je l'ai terminée il y a quelques jours. Et je me suis dit, il est terriblement d'actualité, hélas. Olivier Luge pourrait continuer à faire les dessins, refaire les mêmes, quasiment, je suis sûre, avec les mêmes personnages. Comme le virus est toujours là, toujours aussi hargneux, toujours aussi tenace. Il y a toujours les fake news, il y a toujours YouTube. Et il y a toujours ce personnel de santé aussi qui souffre et qui va encore souffrir. Et puis tous ces malades. Et j'aurais tellement voulu que... ce livre soit, sans doute vous, pas forcément un final, mais un clin d'œil final en disant, ben voilà, ça y est, on le referme et on ne peut pas le refermer.
Pas pour l'instant, mais j'espère bien qu'il va devenir, qu'il va devenir un souvenir.
Ah oui. Oui.
J'ai déjà des collègues qui l'ont acheté en disant, ça me fera un souvenir de cette époque. Alors,
Ce sera collector.
C'est ça, oui, peut-être. Mais alors, quand même, cette première vague... elle n'a rien de commun avec celle qu'on a vécue, la deuxième,
non.
ni la troisième.
Non, bien sûr.
Parce que la deuxième, on savait à peu près qu'est-ce qui allait se passer. On était déjà passé par là. Et en même temps, on se retrouvait en plus à devoir continuer le travail qu'on faisait auprès de nos patients habituels, ce qui n'avait pas été le cas de la première vague. Non, on avait quasiment tout arrêté, les consultations.
Oui.
Donc là, actuellement, tout se fait en parallèle, ce qui est beaucoup plus compliqué d'une certaine manière.
Et oui.
On est moins dans la surprise, mais plus dans l'accumulation de tâches. Mais donc cette première vague, son côté surréaliste et invraisemblable, ça la rend unique quand même. Je pense qu'il n'y a aucune autre vague qui ressemble à ça.
C'est sûr. Et surtout qu'il y a une forme de sidération, de peur, d'incompréhension. C'était qu'est-ce qui nous tombe dessus, en fait, aussi.
Oui. Puis l'inconnu complet, le truc. Les seules informations qu'on avait, c'était justement les médias qui nous renvoyaient des photos là pour le coup d'Italie, le président de la République qui nous dit
c'est la guerre,
on est en guerre. Voilà, c'était tout extrêmement solennel et anxiogène.
Et ce printemps ensoleillé du confinement 2020, ensoleillé où le pays s'est arrêté ou quasiment.
Ça, c'était marquant parce que j'ai fait quelques planches là-dessus. Je montais à pied à l'hôpital et c'était frappant de voir que, alors que je montais vers un lieu rempli de gens qui, malheureusement, pour un certain nombre, mouraient, il y avait la nature qui, elle, était toute folle. Il y avait des bourgeons partout. Il n'y avait plus personne pour entretenir les pelouses. Donc, il y avait un côté sauvage et un pied de nez à ce qu'on vivait qui était...
Mais surtout que, oui, et puis quand on pensait qu'il y avait 4 milliards d'humains qui étaient confinés, il y avait des pingouins d'un côté qui se baladaient, nous on avait des canards, il y avait un sanglier je ne sais plus où, il y avait un lion qui s'était, ou un tigre qui s'était évadé je ne sais quel zoo, de quel zoo au bout du monde. C'était un monde, enfin, un scénariste aurait fait le truc, on aurait dit, oh là, il exagère, il va trop loin. En plus,
c'est ça, oui. Bah, comme souvent, la réalité
rejoint la fiction.
Bien meilleur scénariste que la fiction.
Tout à fait, oui. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on est dans, on va dire, troisième vague, deuxième vague. On ne sait plus trop comment on doit appeler les choses.
On est dans le vague, là.
Ça c'est très bien. Bravo. On est dans le vague. On est bien d'accord. Comment vous voyez les choses, vous?
Par rapport à quoi?
Par rapport à la situation aujourd'hui, est-ce que vous le vivez forcément différemment, parce qu'on le disait, c'est différent. Vous continuez à dessiner sur ça, ou comme vous dites, on est dans le vague, ben le dessin aussi devient vague.
Alors le dessin pour le Covid, je dois dire que j'en fais à peu près un toutes les deux semaines. Là, le dernier, c'était sur la vaccination.
Oui. Ah ben il y a de quoi faire là aussi.
Oui. Il y a toujours un petit sujet.
Il y a matière.
Régulièrement, je me dis que c'est le dernier, et puis voilà. Mais après, pour le reste, je suis parti sur d'autres projets là, de dessiner d'autres récits tout aussi surréalistes, mais là pour le coup, c'est de la science-fiction.
Alors, ouais.
J'aurais bien aimé que la vague ne soit que de la science-fiction.
Ouais.
Voilà, donc le dessin reprend une phase différente. Et puis, par contre, à l'hôpital, il y a une activité autour de cette bande dessinée qui est assez importante. Il y a une proposition d'exposition, il y a des séances de dédicaces, il y a des commandes qui sont, enfin voilà,
c'est assez
présent sur l'hôpital, je sais pas pour le reste, mais en tout cas sur l'hôpital c'est les gens me croisent, m'apportent des livres dans le service, j'ai une pile livres à faire et livres
à dédicacer, d'accord.
À dédicacer, voilà.
Mais c'est bien parce que vous rendez compte du dérivatif que cela procure, c'est-à-dire que au travers d'un truc dramatique, parce qu'il faut dire les choses comme c'est quand même pas drôle, on en est à plus de 90 000 morts, il y a des gens qui sont en réanimation et de plus en plus jeunes, et il y a ce livre qui est là, on arrive quand même à vous l'amener pour faire des dédicaces. Je disais, c'est la petite lumière, il y a toujours dans un moment tragique toujours un petit point lumineux, et c'est bien, et je suis sûre que pour vous-même aussi, votre regard sur l'humain, sur l'autre, doit être aussi un peu plus apaisé. Comment vous ressentez les choses? Ça, il y a un plaisir quand même malgré tout. Je me donne du plaisir et donc du coup, j'en donne aux autres.
Quand je vois les gens qui viennent là, qui me demandent, qui me remercient, c'est vraiment super. Je pense aussi, c'est pour ça que la direction de l'hôpital est favorable à ces séances, ce type de manifestation, parce que c'est vrai que ça permet de sortir un petit peu d'un quotidien qu'on aimerait plus gai,
plus léger,
plus varié, plus léger. Voilà, donc c'est ce petit pas de côté que ça permet. Moi je suis toujours surpris des réactions des collègues, des amis, des gens que je connais pas. C'est très chouette, je trouve.
C'est très bien. Et puis je suppose que la situation doit être de nouveau aussi tendue à l'hôpital, et ça permet aussi de regarder les choses un petit peu avec de recul, si tant est que ce soit possible, bien évidemment.
Oui, ça permet un peu ça. Là, je vais voir pour cette espèce de nouvelle chose, là, je ne sais pas si c'est une vague ou pas, mais on verra ce qu'on va faire, comment ça va, quelle forme ça va prendre.
Oui. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très, très facile à gérer et à vivre. Et je pense qu'on attend tous des décisions peut-être plus fermes pour enrayer les choses, en tout cas pour essayer d'aider le personnel médical et les malades aussi, bien évidemment. Oui. En tout cas, c'était un vrai plaisir, ce livre. C'est la lumière du petit poussé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça en lisant votre livre. C'était plaisant dans cette actualité un peu morose et qui ne change guère, hélas. C'était vraiment comme le virus. Ça permet de sourire, et puis au travers de personnages. Ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin et de s'évader un petit peu. Voilà, La vague au cœur de la tempête, écrit par Olivier Luge durant entre autres le printemps dernier durant le confinement. C'était un vrai bonheur de vous recevoir, de parler avec vous de ce livre, moi qui m'a beaucoup plu. Il a fallu que je le planque dans mon bureau parce qu'on voulait me le voler pour le lire. Donc, voilà. Et puis je vous souhaite voilà toute l'équipe médicale du CHU de Lyon plein de courage et puis merci et je voulais profiter aussi pour tout le personnel médical de France. Merci pour tout ce que vous faites et sans vous rien ne serait possible. Voilà, donc on tenait à ces deux ailes à vous rendre
et vous rendre. Merci beaucoup.
Voilà et on vous applaudit. On continue de vous applaudir ici à ces deux ailes. Merci beaucoup Olivier Luge. Merci beaucoup. Quant à nous, je vous retrouve une prochaine fois pour une autre émission, mais nul doute que celle-ci vous aura intéressé. Voilà, bonne chance, prenez soin de vous et à très bientôt.